Ceux qui nous suivent, bien, c'est plus simple, hein? On recule un petit peu, puis on repart. Donc, bien, ce matin, ce que ça a remis sur mon cœur, c'est d'avoir ou ayez un sel qui influence ce monde. Quel genre de personne le Seigneur se sert pour influencer ce monde, pour faire connaître son nom, pour le faire connaître lui? Un peu tout le monde, hein? Lorsqu'on regarde seulement avec les disciples, bien, Jésus a choisi des personnes bien ordinaires pour le servir. Il n'a pas été chercher les grands théologiens, mais il a été chercher ceux qui étaient disposés à vouloir le suivre. Donc, on va regarder ce matin comment notre sel, que je définirais aussi comme vie spirituelle, est largement considéré comme une composante fondamentale de l'identité et de la structure d'un individu et d'une nation même. Donc, ça va assez large. Comment elle façonne son mode de vie, ou notre mode de vie, nos valeurs et la cohésion sociale, donc nos échanges avec les gens du dehors aussi. Loin d'être une simple affaire qui soit seulement privée, elle s'intègre dans la culture et la vie de chaque croyant qui doit et devrait inspirer ce monde. Donc, est-ce que c'est notre cas? Des fois, on essaye d'être trop comme le monde, puis on n'est plus l'image du Seigneur. On n'est plus l'image que le Seigneur veut que nous soyons en tant que sel et lumière du monde. Et ce qu'on va voir au travers du message ce matin, et je vais me concentrer surtout sur l'aspect positif du sel, parce que si on regarde dans l'Ancien Testament, bien, le sel avait deux actions, deux réactions que produisait le sel, c'était pour préserver, mais aussi pour détruire. Hein, on pense à Lot, donc et sa femme qui s'est tournée de bord, qui est virée en statue de sel. Donc, on voit que ça a un côté de bénédiction, que ça bénit et ça garde, ça protège les aliments, mais en même temps, comme on voit aussi, ça peut détruire aussi ou brûler. Donc, ça a des capacités assez importantes. Question: en quoi être un chrétien ou disciple du Seigneur, cela peut-il faire la différence dans ce monde, notre ville, notre entourage? Comment est-ce que cela, hein, c'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que ça change d'être chrétien? Qu'est-ce que ça change d'être un disciple du Seigneur? Pour nous, ça change quelque chose. Bien, du moins, j'espère. J'espère que le Seigneur vous a changé, vous a transformé, et est en train de vous emmener de jour en jour à l'image, hein, de Christ, de sa ressemblance. Mais sinon, dans le monde, est-ce que ça fait une différence? Est-ce que les chrétiens, les croyants, ceux qui suivent le Seigneur, font une différence dans ce monde? Et j'espère que oui aussi. Parce qu'on a besoin de réaliser l'impact qu'on a dans notre entourage aussi. Comment est-ce que l'impact se voit? Comment est-ce qu'on fait un impact? Comment est-ce qu'on va faire un impact dans ce monde? Bien, on va aller dans nos textes ce matin, dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Jésus n'a pas prêché quelque chose qu'il ne faisait pas. Premièrement, Jésus était le modèle et est notre inspiration. Et qu'est-ce qui était Jésus? Jésus était un personnage, un prophète, un homme de Dieu, c'était Dieu. Et lorsqu'il marchait sur la terre, il y avait quelque chose qui faisait que les gens couraient après lui pour le voir. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que les gens courent après nous pour venir nous voir parce qu'on est chrétien? Pas beaucoup, hein, aujourd'hui. Des fois, c'est le contraire qui arrive. Hein? Lorsqu'ils savent qu'on est chrétien, les portes se ferment. On va voir cet aspect aussi dans les Écritures ce matin. Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 16, Jésus nous dit ceci, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu qui est dans les cieux. » Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Bien, le contexte, hein, comme on vient de voir, nous parle de sel et lumière du monde. Mais aussi, j'ai mis la traduction français courant d'une partie du passage ici, où il nous a dit que nous sommes le sel de la terre. Je trouve ça intéressant. Dans le sens pour le monde. Le Seigneur ne nous a pas sauvés seulement pour nous-mêmes, pour notre bien, nos avantages, mais il nous a sauvés afin que nous soyons aussi un témoignage dans ce monde, sur la terre. Parole vivante va dire, ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes, vous, pour cette terre. Amen. Ce que vous êtes, vous, comme sel et aliment, vous l'êtes sur cette terre, pour cette terre. On est là pour alimenter la terre. Dans ce sens-là, je trouve ça intéressant. Si le sel devient insipide, donc plate ou sans intérêt, avec quoi la lui rendra-t-on sans... Avec quoi lui rendra-t-on son pouvoir salant? Il ne sert plus à rien, il n'a qu'à le jeter dehors où il sera piétiné par les passants. Je trouve ça intéressant, cette traduction aussi, dans les Écritures. Donc, nous sommes supposés ne pas être plates. C'est un beau terme qu'on emploie québécois, comme on dit. Mais il y a cet aspect aussi, sans intérêt. Donc, le sel et lumière dans ce monde que nous sommes, le sel que nous sommes dans ce monde, devrait emmener un aspect où cette nourriture, cet aliment-là, dans le monde, qui a de l'intérêt. On doit susciter de l'intérêt aux gens, et non le contraire. Je reviens souvent avec ça parce que on a tellement l'impression de déranger parfois qu'on va plutôt se taire puis prendre un autre coin que prendre position pour le Seigneur. Donc, en Jésus, soyons qui nous devons être. Et ça va faire la différence. On n'a pas à se cacher, on n'a pas à faire... À essayer de faire comme le monde et ne pas marcher avec le Seigneur. Ça ne plaît pas au Seigneur lorsqu'on marche entre deux mondes. Le Seigneur veut qu'on marche pour lui, pour son royaume, et non pour les bénéfices qu'apporte la terre. La suite du texte, Jésus nous dit, « Mais au contraire, si le sel perd sa saveur, cette analogie du Seigneur nous fait penser sûrement à qu'est-ce ou comment le sel peut-il perdre sa saveur? » Et c'est une question que je me suis posée en préparant le message, puis il me venait cet exemple assez simple. Quand j'ai un gros rhume, un gros mal de gorge, sécrétion, puis envoyez donc, qu'est-ce qu'on fait? Des recettes de grand-mère. Je me sers parfois du sel mélangé avec de l'eau tienne pour se gargariser, hein? Donc, on dilue le sel pour le besoin lequel on a besoin. Parce qu'est-ce qui arriverait si je prendrais du sel et je le mettrais directement dans ma bouche? Ça risque de brûler. Donc, ça n'amènera pas un soin guérissant, mais plutôt une souffrance. Donc, comment je me sers de mon sel? Comment je me sers du sel que le Seigneur m'a donné? Je dois l'adapter, je dois travailler avec ce que le Seigneur nous donne. Et comment est-ce que le sel peut-il perdre sa valeur? Il faut faire attention de ne pas le diluer avec autre chose que la parole de Dieu. Ne pas le diluer avec d'autres choses. Donc, on va regarder dans la parole de Dieu quels sont les bienfaits du sel et la différence. Donc, on est en train de regarder ce matin comme saveur, prendre sa saveur, le goût, hein, et l'intérêt que cela va apporter. Jésus nous donne la première illustration, on va analogier au verset 16, « Que votre lumière luise ». Il fait une analogie ici avec le côté spirituel, notre vie, notre consécration avec le Seigneur et le sel, mais aussi avec la lumière qui doit luire devant les hommes. Donc, on n'a pas à se cacher. On n'a pas à se cacher, on a à luire plutôt devant les hommes, devant ce monde, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, notre Père qui est dans les cieux. Donc, à quoi fait référence le sel et la lumière? Aux bonnes actions qui vont faire une différence. À nos œuvres bonnes que nous faisons pour le Seigneur. Comme vous savez, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la grâce. Mais celui qui a cru va accomplir les œuvres de la grâce, afin que ceux qui le voient, voient l'œuvre de Dieu en nous et se convertissent au Seigneur. Nos bonnes actions ou œuvres, plusieurs, hein, sont en relation étroite avec le sel. Vous savez, quand un croyant qui marche avec le Seigneur s'éloigne graduellement pour ne plus rien faire pour le Seigneur, je dirais que le danger est à sa porte. Je ne parle pas seulement à ceux qui sont à l'œuvre dans l'Église, mais plutôt, mais aussi partout dans ce monde et devant les hommes, et ça concerne les hommes autant que les femmes, car notre lumière doit luire et éclairer ce monde. Mais comment est-ce que je peux garder cette lumière? Comment est-ce que je peux garder ce sel? En me gardant dans la parole de Dieu, dans la volonté du Seigneur, en marchant selon ses préceptes et ce que lui veut pour ma vie. Dans Jacques, chapitre 4, verset 17, il dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, hein, qui sait faire les œuvres bonnes, et qui ne le fait pas, commet un péché. » Donc ça, c'est assez clair, hein? Je n'ai pas besoin d'expliquer beaucoup là-dessus. Si je sais faire ce qui doit être fait, pour le Seigneur, puis je ne le fais pas, bien, je pêche. Parce que je sais ce que le Seigneur veut. J'aime cette expression que Jacques va employer. Il va dire, si donc, celui qui sait. Parfois, on le sait, mais on ne le fait pas. Il y a des choses qu'on sait que le Seigneur nous demande de faire, puis on va aimer mieux ne pas le faire. Parce que ça vient déranger nos intérêts à nous. Ça vient déranger notre façon de paraître, que nous paraissons. Galates chapitre 9, Galates 6, verset 9 nous dira, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Et il y a une condition ici. Si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais faire aujourd'hui, comme on dit, c'est ma BA de la journée. Après ça, je suis correct. Non, c'est tout le temps. On a toujours à faire le bien. Qu'importe où ce qu'on est, qu'importe le nombre de fois qu'on a à faire du bien dans la journée, bien, il faut le faire. C'est notre, ça fait partie de notre essence, je dirais, en Christ. Et ça nous dit de ne pas se relâcher, de faire le bien, de continuer. Qu'apprenons-nous d'autre sur le sel? Et j'ai été dans trois exemples, dans les trois évangiles ce matin pour nous enseigner, à nous montrer à quoi sert le sel. Donc, Marc, évangile selon Marc, chapitre 9, versets 41 à 51. Jésus dira ici, « Quiconque vous donnera à boire un seul verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on la jeta dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi encore, entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Où leur ver ne meurt point, verset 48, et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Donc, il y aurait beaucoup à dire, encore une fois, sur ce texte que Jésus met en contexte, encore une fois, avec le sel et les œuvres, les actions que tu fais en son nom. Tu en recevras une récompense, même pour le plus petit verre d'eau que tu vas avoir donné, même pour la petite chose que tu vas avoir fait pour le bien d'un autre, tu vas en recevoir une récompense. Mais au contraire, si tu scandalises par tes actions charnelles, un seul nouveau croyant, tu en recevras les conséquences. Car le royaume, ou plutôt, car le croyant est appelé à manifester un feu salé spirituel complètement consacré et inspiré de l'Esprit, qui agit avec cœur en apportant la paix et jamais la division. Qu'est-ce que ça nous dit au début du passage? Bien, seulement une petite œuvre qu'on fait pour les autres. Même les petites choses que nous faisons pour les autres dans le nom du Seigneur comptent. Même les plus petites actions qu'on fait envers les autres. C'est ça qu'il ne faut pas oublier tout au long de ce que Jésus va parler. Le contexte part de ce passage, du verset 41. Pour nous emmener à dire que ça va faire une grosse différence. Même les petites choses qu'on peut faire une grande différence dans la vie d'un autre. On n'a pas besoin des fois de faire des grandes choses, d'essayer de sortir l'armée, de sortir tout ce qu'on a, puis des fois, juste dans les petites choses, le Seigneur est glorifié. Et c'est ça qu'il nous parle ici. Dans Luc, chapitre 14, versets 25 à 35, Jésus dit, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse achever ou l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet homme, que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, en résumé, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la saisonnera-t-on? Verset 35, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, hein, qui est de l'engrais. On le jettera dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans ce contexte-ci, le sel, hein, Jésus nous parle de sagesse liée à l'engagement. D'être conscient que de le suivre peut s'avérer coûteux en perte de relations terrestres. Puisque la spiritualité de notre marche avec lui doit venir d'une décision réfléchie à cause que nous vivons maintenant pour lui et faisons sa volonté. Donc, le sel ici représente, est encore une bonne chose, mais il représente encore une fois un autre aspect qui est une prise de décision. Et cette prise de décision-là peut te coûter cher en relation. Mais pourquoi? En bâtir de nouvelles avec des personnes qui aiment le Seigneur, des personnes qui sont attachées au Seigneur et qui font sa volonté. Donc, d'un autre côté, ça va être plus bénéfique pour toi. Paul dira à l'Église de Corinthe, de Colosse plutôt, Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Donc ici, on parle, hein, dans le même contexte, je dirais, avec sagesse. Ça prend de la sagesse, hein, et le Seigneur nous donne sa sagesse pour marcher avec lui. Bien que le sel soit une bonne chose pour l'enfant de Dieu, elle ne l'est pas toujours pour ceux qui nous entourent. Nous devons quand même garder le témoignage de Jésus en toutes circonstances, surtout quand le monde, hein, qui a besoin, dans un monde qui a besoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, comment la saveur du sel peut-elle être une bonne chose pour le chrétien? Ce qu'il y a de finement spirituel dans un propos, un écrit, un geste, une situation, ou ce qui augmente vivement l'intérêt par la paix que nous dégageons. Donc, le sel se dégage, hein, par la paix qu'on procure, par l'assurance qu'on a dans le Seigneur et par tout ce qu'on accomplit pour lui et non pour notre avantage à nous. Dans l'Ancien Testament, le sel a une grande valeur car elle garde et scelle même les offrandes. Je trouve ça intéressant. Dans Lévitique chapitre 2, verset 13, il nous a dit, si tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Hein, c'est assez clair? Sur toute œuvre que tu veux faire pour le Seigneur, tu dois être empreint de sel. Dans tout ce que tu fais, que ce soit à travers les petites choses que le Seigneur te demande, que ce soit une prise de position pour lui, que ce soit à travers différentes choses que le Seigneur va te demander à faire, bien, tu dois tout faire pour le Seigneur et démontrer et avoir ce sel en toi sur tout ce que tu offres à Dieu. Ce qui donne de la durabilité à ton œuvre et à ton service envers le Seigneur est le sel que tu dégages par ta vie. Nous avons une saveur différente du monde, un assaisonnement qui donne le goût aux autres de suivre Jésus. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce qu'on donne le goût aux autres, aux personnes, aux gens, de suivre le Seigneur, de venir au Seigneur? Ayez du sel qui influence ce monde et un sel spirituel qui donne de la saveur dans ce monde est possible seulement par ceux qui appliquent les principes de la parole de Dieu. Et dans 4 points, si je fais un résumé de ce qu'on a vu ce matin, le premier, des valeurs spirituelles qui sont apparentes et qui glorifient le Seigneur. Le deuxième, manifester le feu pour les choses spirituelles par la grâce du Seigneur dans notre vie, même à travers les petits gestes ou les petites choses. Trois, de prendre position en s'engageant et en agissant avec sagesse envers tous. Et quatrième, que toute œuvre que tu fais pour le Seigneur soit empreinte, marquée par une reconnaissance envers le Seigneur qui rend gloire à Dieu. Pour arriver à ne pas perdre notre saveur, nous avons besoin d'être en contact constant avec le Seigneur et de prier par l'Esprit, et ainsi de mettre en pratique ces 4 principes du sel dans notre vie. Donc, en résumé, on va prendre un temps ce matin. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on a vu? Donc, je pose la question. Un petit peu comme on fait le mercredi, au travers les partages. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on a vu ce matin? Le sel et la lumière du monde, que le Seigneur nous demande d'être pour lui, pour l'Église, pour hein? On est cette image du Seigneur, donc il doit faire la différence par la lumière et le sel, oui. D'autres choses avaient retenu? C'est ça? Ne pas avoir peur de faire briller notre lumière. Là où ce que ça nous a placés, hein? Que ce soit au travail, que ce soit à n'importe où ce qu'on se trouve, mais on a à briller. C'est lui qui nous garde bien salés, avec un... Oui. D'avoir de faire la différence. De ne pas être dilué, de ne pas se diluer face aux autres, ou les personnes avec qui on est. Des fois, on se dit, bien là, je suis avec tel genre de personne, je vais faire attention à ce que je dis, qu'est-ce que je fais, je vais faire comme lui pour que ça paraisse, je paraisse un étrange. Hein? Oui, ne pas avoir honte, hein? ça amène à ça. Ça amène à ne pas avoir honte de l'Évangile, de ne pas avoir honte de qui? Le Seigneur, de ce que le Seigneur fait de nous, comme nouvelle créature, comme lumière et sel sur la terre. Oui. Oui. Effectivement. Le sel sert à préserver. Et dans, justement, l'Ancien Testament, il n'y a pas de frigidaire. Hein? Ils sont dans le désert. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient beaucoup de sel pour préserver la viande. Et même que Dieu, comme on a vu dans Lévitique, même que Dieu demandait à ce que la viande soit bien préservée pour qu'elle arrive dans l'offrande, lorsqu'on offrait, on offre quelque chose à Dieu, pour pas qu'on offre quelque chose à Dieu qui est pourri, puis qui est plus bon. Dieu veut ce qui est bon. Hein, on a cette image-là aussi, là, au travers de la selle, que lorsqu'on offre quelque chose à Dieu, on donne du meilleur. On donne notre meilleur. On ne donne pas ce qui sent plus, ce qui est plus bon, ce qui est sans intérêt, hein, comme on a vu aussi, sans intérêt, comme le sel qui a été dilué. Mais on donne avec amour de tout notre cœur des choses qui plaisent à Dieu. Hein, c'est facile de donner de quoi qui ne marche plus, puis qui ne va pas bien, puis qui ne goûte pas bien. T'as manqué ta recette, tu sais. Mais je vais agir avec cœur, je vais te donner. C'est un petit peu ça, hein? Oui, j'ai manqué ma recette, fait que je vais te la donner. Ça va me faire plaisir. Des fois, on fait ça avec le Seigneur. On fait des choses avec le Seigneur, puis c'est pas important, tiens. Je vais le donner à l'Église, je vais le donner à l'œuvre. C'est restant. Non, le Seigneur veut le meilleur. Il veut de nous ce qui est le meilleur. Il ne veut pas des restants. Bien, des fois, mais des bons restants. Parce que je pense d'un coup à la dame qui a donné une offrande, qui n'avait pas donné beaucoup, que Jésus a dit, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné plus que toutes les autres. Même avec un peu, comme on a vu aussi, hein, le sel, même une petite œuvre, c'est faite au nom de Dieu, au nom du Seigneur, ça a une importance grande à ses yeux. Oui. Oui. Mm-hmm. Oui. Puis ça me fait penser justement à la mère morte. Hein? Jésus a pourvu pour qu'il y ait du sel en masse, même dans le désert, avec la mère morte. Et quand tu étais, je connais des personnes qui ont été, puis il dit quand tu baignes, tu flottes. Tu ne peux pas caler. C'est impossible. Le sel te fait flotter. Le sel te fait flotter. J'avais cette image-là, si tu parlais. Ouais. Qu'est-ce qui est dilué, mais qu'est-ce qui est pur? Qu'est-ce que le Seigneur donne, lui, c'est pur. Et faire des. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, ça nous fait flotter. C'est cette image-là que j'avais. C'est comme la mer morte. Il y a tellement de sel que tu ne peux pas caler. Mais si notre vie est remplie de sel, on va flotter. Dans la présence de Dieu. J'aime ces images. C'est enrichissant. D'autres choses? Bien. Continuons à être ce sel sur la terre, à partager la parole de Dieu, à ne pas avoir peur de qui nous sommes en Jésus-Christ, hein, d'être cette image du Seigneur par tout ce qu'on est, parce qu'on a, frères et sœurs, à incarner Christ. Et j'avais cette, cette pensée qu'on a parlé un petit peu la semaine dernière, que c'est un petit peu la suite de ça. À travers le sel, nous incarnons Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, on incarne Christ? On est Seigneur. On est ambassadeur aussi. Hein? On représente le Seigneur et, comme je dis hein, souvent, nous sommes peut-être la seule image, la seule personne du Seigneur qu'une personne peut rencontrer ou va rencontrer. Donc, soyons une personne précieuse qui va faire la différence dans les yeux, dans les, hein, à travers ce monde et à travers les autres. Donc, Seigneur, bénis ces paroles ce matin. Ben, je vous remercie de vos partages. C'était différent. Puis c'était le fun, des fois, de faire des choses un petit peu différentes. Oui, tu peux fermer. On vous salue. Passez une belle journée, une belle semaine. Pour ceux qui nous suivent. Ça, on peut dire n'importe quoi.